Bonjour à tous, il est 16h ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Karine Bellichat.
À la une, la situation en RDC, alors que l'ONU s'inquiète de l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda. Paris poursuit sa mission diplomatique. Jean-Noël Barrot a rencontré Paul Kagame à Kigali. Amélie Tullet nous en parle dès le début de ce journal. En Serbie, des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Novi Sad demain pour protester contre la corruption et les autorités de Belgrade. Les étudiants sont en route à pied depuis la capitale. Nous rejoindrons Laurent Rouille dans le cortège. Et puis les affiches des barrages de la Ligue des Champions sont désormais connues. Le choc opposera Manchester City au Real Madrid. Alors que l'ONU s'inquiète de l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda vers Bukavu, la SADC, la communauté de l'Afrique australe, se réunit cet après-midi à Harare et le ministre français des Affaires étrangères poursuit sa mission diplomatique. Bonjour Amélie Tullet.
Bonjour.
Après Kinshasa hier, Jean-Noël Barrot s'est entretenu ce matin avec Paul Kagame à Kigali. Là encore, rien n'a filtré de ces discussions.
En effet, aucune déclaration à l'issue de l'entretien. Seuls éléments de langage de la diplomatie française. Cet échange s'inscrit en soutien des processus de médiation régionaux. Avant cette visite, les services du ministre français des Affaires étrangères avaient annoncé que Jean-Noël Barrot demanderait à Paul Kagame le retrait des troupes rwandaises de l'Est congolais. À Paris, l'Élysée dit suivre avec une extrême préoccupation l'offensive du M23 avec l'appui des forces rwandaises qui se poursuit plus au sud dans le sud Kivu. Emmanuel Macron multiplie les échanges téléphoniques avec les chefs d'État du continent. L'Élysée assure qu'il y a un consensus général sur la nécessité de parvenir à faire cesser les hostilités. Et au niveau des instances internationales, Union européenne, Nations unies, la présidence française parle d'une convergence pour hausser le ton et les pressions sur le M23, le Rwanda et aussi, je cite, les acteurs congolais qui sont dans une logique de prise du pouvoir. Une référence aux propos tenus hier par le leader de la coalition dont fait partie le M23. Une logique que nous ne pouvons pas accepter, dit l'Élysée.
Amélie Tullet du service Afrique d'RFI. Au Proche-Orient, l'accord de trêve va permettre l'évacuation de blessés palestiniens de Gaza par Rafah. Le passage au sud de l'enclave palestinienne devrait être rouvert par Israël, selon plusieurs sources. Une nouvelle étape du cessez-le-feu alors que l'échange otages contre prisonniers se poursuit. 3 Israéliens seront libérés à Gaza demain. Il s'agit de 3 hommes, le franco-israélien Ofer Calderon, Keith Siegel, un israélo-américain, ainsi que l'israélien Yarden Bibas, dont la mort de l'épouse et leurs 2 enfants avaient été annoncés par le Hamas. 90 détenus palestiniens doivent être libérés dans la foulée. En attendant à Gaza, la branche armée du Hamas a confirmé la mort de son chef Mohamed Deif. Israël avait annoncé l'avoir éliminé dans une frappe il y a plus de 6 mois. Le mouvement islamiste avait choisi le silence jusqu'à hier. Sami Boukhelifa a demandé à Ahmed Koussaï, spécialiste du Hamas, de commenter cette stratégie.
Hamas annonçait la mort de Mohamed Deif en pleine guerre aurait sans doute eu un impact sur ses propres combattants. L'annonce de cette mort aurait affecté le moral des troupes. Donc, ce n'était pas possible de reconnaître la disparition du leader. La chaîne de commandement aurait aussi été affectée et avec elle, les ordres pour la poursuite des opérations militaires du Hamas. Et il y a aussi une autre raison. Le Hamas ne souhaitait pas que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou crie victoire et tire profit, en pleine guerre, de cette situation en s'attribuant le mérite d'avoir tué Mohamed Deif.
Ahmed Koussaï, professeur à l'université Al-Quds de Ramallah, spécialiste du Hamas, contacté par Sami Boukhelifa à Jérusalem. À Washington, l'enquête sur la collision d'un avion de ligne et d'un hélicoptère va pouvoir avancer. Les 2 boîtes noires de l'appareil d'American Airlines ont été retrouvées. L'accident a fait 67 morts. Selon le New York Times, la tour de contrôle était en sous-effectif mercredi soir. Un seul contrôleur au lieu de 2 assurait le trafic à ce moment-là. L'agence des transports promet un premier rapport sur les causes de l'accident dans 30 jours. Toujours aux États-Unis, Donald Trump va-t-il passer de la menace aux actes en matière de droits de douane? Le compte à rebours a commencé. Le président américain a promis d'augmenter à 25% les taxes à l'entrée des États-Unis pour ses voisins, le Mexique et le Canada, dès demain, le 1er février. En Ukraine, l'offensive russe se poursuit à l'est. Une attaque de drone a fait au moins 9 morts ukrainiens dans une zone résidentielle de Soumy, près de la frontière russe. Par ailleurs, Kiev affirme que les soldats nord-coréens qui prêtent main forte aux Russes ont été retirés du front à Koursk, là où l'Ukraine est présente sur le territoire russe depuis son offensive surprise l'été dernier. Moscou ne commente pas cette information. En Allemagne, la droite et l'extrême droite vont-elles une nouvelle fois s'allier au Parlement en pleine campagne électorale? Un nouveau vote sur l'immigration a commencé. Les conditions du regroupement familial pourraient encore être durcies. Mercredi, la CDU a déjà voté avec l'AfD pour faire adopter une motion visant à refuser l'entrée du pays à tous les étrangers sans papier, y compris les demandeurs d'asile, un séisme politique en Allemagne. Le mouvement étudiant en Serbie ne faiblit pas, même si le gouvernement a lâché du lest hier. Une manifestation rallie depuis hier Belgrade à Novi Sad, la ville où en novembre 15 personnes avaient été tuées dans la chute de l'auvent en béton de la gare tout juste rénovée. Un accident qui avait ravivé la colère dans le pays contre une corruption endémique. Laurent Rouy, vous êtes dans le cortège. Les étudiants sont encouragés dans leur marche par des comités de soutien.
Alors effectivement, donc je me trouve actuellement à quelques kilomètres de l'objectif des étudiants à Novi Sad, donc dans la petite ville de Sremski Karlovci, où il y a environ un comité d'accueil de 800 personnes dans ce petit village qui attend les étudiants. Donc vous entendez peut-être derrière moi les motards qui précèdent le cortège viennent d'arriver. Il y a donc de nombreuses tables qui ont été installées pour les étudiants avec des distributions de bouteilles d'eau, de nourriture et de médicaments contre la douleur prévue. La marche des étudiants représente environ 90 km. Ils sont partis hier matin depuis Belgrade. Ils doivent se rendre à Novi Sad où demain à partir de 15h aura lieu un blocage des trois ponts de la ville, un blocage d'une durée de 24 heures et qui sera une fois de plus, à n'en pas douter, une manifestation de grande ampleur qui va de nouveau montrer à quel point la Serbie s'est mise debout. Elle marche contre la corruption depuis cet accident tragique dans une gare qui venait d'être rénovée et qui avait causé 15 morts.
Laurent Rouy en direct sur la route entre Belgrade et Novi Sad. En France, un compromis a été trouvé à l'Assemblée sur le budget. Les 7 députés, les 7 sénateurs de la commission mixte paritaire sont parvenus à un accord. Leurs conclusions seront examinées dans l'hémicycle de l'Assemblée lundi à partir de 16h. La menace d'une motion de censure plane toujours, alors que pour le Premier ministre pourrait utiliser pour la première fois le 49-3 pour faire adopter le texte sans vote. Du foot, à présent avec le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions à la mi-journée. Solène Ravenel du service des sports nous a rejoint. Bonjour Solène.
Bonjour.
Les 16 équipes qualifiées connaissent désormais leur adversaire et la grosse affiche de ces barrages, c'est Manchester City face au Real Madrid.
Comme un air de finale, Manchester City-Real Madrid, les deux derniers vainqueurs de la compétition se retrouveront dès les barrages. La dernière fois que les deux clubs se sont croisés, c'était la saison dernière lors des quarts de finale de la compétition. Les Merengues s'étaient alors imposés au bout du suspense, au tir au but lors du match retour, quelques semaines avant de lever la coupe. Rappelons que ce tirage au sort s'inscrit dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Si Manchester City et le Real Madrid doivent passer par des barrages, c'est qu'ils n'ont pas réussi à être classés dans les 8 premières équipes, qui sont elles directement qualifiées pour les 8e de finale, comme Liverpool, Barcelone ou Lille. Parmi les autres clubs concernés par ces barrages qui se joueront en aller-retour, le Bayern de Munich notamment, qui affrontera le Celtic Glasgow, un adversaire largement à sa portée, mais aussi 3 clubs français, Monaco qui recevra le Benfica et le Stade Brestois, sensation de la première phase, qui retrouvera le Paris Saint-Germain, un duel franco-français entre l'ogre parisien et le petit poussé breton.
Solène Ravenel du service des sports d'RFI, j'ajoute que les matchs allés de ces barrages sont prévus les 11 et 12 février prochains. Un mot de rugby, les Français entament leur tournoi des 6 nations ce soir face au Pays de Galles. L'an dernier, les Bleus étaient arrivés à la deuxième place. La tournée d'automne s'est bien passée avec 3 victoires contre le Japon et surtout contre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Match ce soir à 20h15 en temps universel. Et puis les Parisiens et les touristes vont retrouver la vasque olympique. Le ballon d'hélium de 30 mètres de haut avait été la star des JO cet été. Désormais, chaque été, la vasque va prendre ses quartiers au Japon. Jardin des Tuileries.